Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Une grotte chinoise est dans les échos.
Oui, la grotte où se forge la légende de Xi Jinping, le maître de la Chine. Une pièce voûtée, étroite et sombre, creusée dans la roche, dans le village de Lianjiahe, 1000 km environ au sud-ouest de Pékin. Les échos ont visité la grotte pour 20 yuan, environ 2,60 €. On y voit une lampe à pétrole, une bassine en émail pour faire sa toilette et aussi un lit en brique. Un lit si petit pour un si grand homme, dit un visiteur. Là vécut Xi Jinping au temps de la révolution culturelle, quand le maoïsme envoyait ce qu'on appelait des jeunes instruits se rééduquer à la campagne. Il avait 15 ans, il était le fils d'un dignitaire communiste en disgrâce provisoire. Il y passerait 7 ans dans ce village, mais ces 7 ans sont aujourd'hui sa preuve. Il magnifie ses 7 ans, sa biographie. Nombre de mes idées ont été forgées à Lianjiahe, dit le leader chinois. Parole de la guide officielle dans un village par ailleurs soigneusement fliqué. Il travaillait souvent dans l'eau froide, pieds nus et pantalons relevés. Il était surnommé le jeune homme qui peut supporter les épreuves. C'est passionnant à lire ce reportage dans les échos au moment où s'ouvre le congrès du PC chinois qui va acter, nous dit le Figaro, le pouvoir absolu du nouvel empereur rouge. La pensée de Xi Jinping pourrait être inscrite dans la charte du parti. Ça ferait de lui l'égal de Mao Tse-tung. Et oui, Xi Jinping revendique et ranime la légende du régime. Et alors, la grotte est essentielle. Est-ce, Nicolas, de la propagande totalitaire au pays de la censure? Ou bien simplement, au fond, de la communication politique comme chez nous? Le journal L'Opinion nous induit le doute. Pour plaire aux Chinois, oncle Xi doit parler écologie. Et oui, comme la pollution préoccupe son peuple, le leader répond. Xi Jinping a donc aussi une opinion publique qu'il doit convaincre. On lira enfin dans Le Pèlerin un grand reportage dans la société chinoise, des smartphones, du TGV, des start-up qui galèrent et aussi la lucidité d'une liberté de parole un peu triste. Chacun se préoccupe de son petit bonheur. Il est inutile et dangereux de contester le pouvoir, dit une jeune femme au bord du Yangtze. La grotte, Nicolas, est aussi une forteresse.
Et en France, un autre leader charismatique parle, et c'est dans le 1,
oui,
dans le 1.
Jean-Luc Mélenchon qui gagne à passer à l'écrit. C'est passionnant, là encore, si on aime la politique, pour deux raisons. D'abord, le 1, c'est cet hebdomadaire intelligent qui avait accordé à Emmanuel Macron, jadis, la chance de donner des interviews philosophiques. C'est dans le 1 que Macron avait confié sa nostalgie de la monarchie. Voilà donc Mélenchon adoubé. Ensuite, il y a le fond. Mélenchon explique son mouvement de l'insoumission gazeux, sans hiérarchie. D'ailleurs, on ne sait jamais ce qu'il veut, même lui ne le sait pas toujours. Il se montre Mélenchon parlant de lui à la fois fragile, je suis un bric-à-brac, et aussi d'un orgueil rare. Il contribue, dit-il, à fonder l'humanisme politique de ce siècle. Il dit aussi, Mélenchon, que le Parti Socialiste est broyé, donc il ne resterait que lui. Mais au fait, est-il vraiment broyé, ce vieux PS? Dans nos journaux ce matin, il bouge encore, le Parti Socialiste, en un ancien ministre des Finances incarné, Michel Sapin, âme de l'offensive contre Macron. Il est en tribune Sapin dans Le Monde contre la faute morale et le mépris hautain du pouvoir. Fin de citation. Et il est en pétition et une interview dans Libération qui s'installe au passage comme le journal de toute la gauche. Dites-nous la vérité, monsieur Macron, demande Sapin et les parlementaires de gauche sur ce dont vont bénéficier les 100 Français les plus riches à travers les réformes fiscales. Des documents existeraient, le pouvoir les connaîtrait, dit le canard enchaîné. Et Michel Sapin dans Libération, ce que l'exécutif sait, pourquoi le cacher aux Français, Nicolas, c'est un métier.
Et puis des remords, Claude, dans la planète Internet.
Et le remords d'anciens ingénieurs de Facebook ou Google qui ont inventé un monstre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Titre d'un article en ligne de Uzbek Erika, repris du site américain de Vanity Fair, il faut lire aussi le Guardian. Ce n'est pas seulement le sujet de la propagande russe qui s'est infiltrée dans les réseaux sociaux, non, c'est le principe même d'un Internet décrit comme totalitaire par ceux qui ont contribué à l'inventer. Parole d'ancien de Google, une poignée de gens dans quelques entreprises impacte ce que pensent 1 milliard de personnes. Nous avons fait la plus importante, la plus standardisée, la plus centralisée des formes de contrôle de l'attention de l'histoire de l'humanité. Ces trentenaires qui ont participé à la machine Internet sont baptisés les refuseniks par le Guardian. Le mot vient du communisme, les refuseniks c'était des dissidents et ceux-là se dressent contre ce qu'ils ressentent comme une abolition de l'humanité. Il est particulièrement important de parler maintenant parce que nous allons sans doute être la dernière génération à se rappeler la vie d'avant. Parole de Justin Rosenstein, qui inventa jadis le bouton « like » de Facebook. Il ne se le pardonne pas, il n'a que 32 ans.
8h36, Claude, nos débats sur les violences faites aux femmes rebondissent avec les regrets des inrecuptibles.
Oui, des regrets sincères adressés par l'hebdomadaire à ceux qui se sont sentis blessés par la couverture que le journal admet contestable qu'il avait consacrée la semaine dernière à Bertrand Cantat. Mais en même temps, et c'est intéressant, dans le même texte, c'est un éditorial non signé, les inrocs ne concèdent pas tout. Le journalisme, je cite, ce n'est pas simplement une posture morale qui consiste à lever ou baisser le pouce. Très bonne phrase à laquelle on repense en lisant l'excellent et très humain, portrait dans le monde de Logan. C'est ce jeune homme de 21 ans qui a été arrêté juste avant de devenir un terroriste d'extrême droite. Il faut le lire. Et enfin, si on a besoin de sourire, Nicolas, ceci. Cela se passe à Blacé, c'est dans le Progrès. Blacé, c'est un petit village où la responsable d'une supérette n'a pas compris comment elle s'est retrouvée sur Twitter. Un client lui avait apporté une affichette qu'elle avait trouvée sympa, je cite. Elle a donc installé au rayon fruits et légumes, je cite. Toute femme surprise à tâter les fruits subira le même traitement. Aïe ! Mais non ! Ce n'était pas méchant et personnellement ça ne m'a pas choqué, ça a plutôt fait rire nos clients et personne n'a rien dit. Si une personne a dit, ou plutôt a tweeté, ouvrez les guillemets, dans mon village, il y a encore du boulot, dièse, balance ton porc. 3000 partages plus loin, monsieur le maire est venu voir la patronne étonnée. Bien évidemment, au nom de la justice, la pancarte a été enlevée.
Claude Askolovitch, merci pour la revue de presse.